peux aller. Moi. Notre invitée, Laure Neuville, travaille aux Archives lesbiennes du Québec, qui vous invite à une journée remplie d'histoire et de culture lesbienne pour souligner les 40 ans d'Archives lesbiennes. Bonsoir, Laure.
Bonsoir.
Quelle belle programmation vous avez organisée pour ce 10 juin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique des Archives lesbiennes du Québec? Comment ça a commencé?
En fait, les archives ont 40 ans, donc elles ont commencé en 83. On a réuni un panel d'une des fondatrices, puis d'autres qui ont travaillé aux archives au fil des ans, pour raconter un peu l'histoire des archives. Donc ça, ce sera le début, en fait, de notre après-midi d'activité. Puis ensuite, on a effectivement un atelier sur les Amazones des grands espaces, donc le groupe de plein air dont Lou La Montagne était une des animatrices. Mais bon, il y a beaucoup de filles qui sont passées par là au cours des 25 ans de ce groupe-là. Et donc, Lou a préparé un diaporama, puis un peu l'histoire du groupe. Puis l'idée, c'est de regrouper celles qui ont participé aux activités au fil des ans, pour ramasser leurs souvenirs tout ensemble. Puis il y aura un autre atelier en parallèle, donc en même temps, dans deux salles différentes, avec Julie Podmore sur les bars de lesbiennes. Parce que ça aussi, on sait que tout le monde a des choses à dire sur les bars, donc Julie a fait la recherche un peu là-dessus. Elle va faire un petit survol historique, puis après ça, l'idée, c'est aussi de recueillir les souvenirs de tout le monde à ce sujet-là. Puis en fin d'après-midi, il y a un spectacle qui s'appelle Les Unes pour les Autres.
Vous venez juste de déménager aussi les archives. Vous êtes rendu où?
Alors, on est rendu à la Cité des Hospitalières. C'est un ancien bâtiment de couvent qui se trouve derrière l'Hôtel-Dieu à Montréal. Ben, parce que, bon, comme beaucoup d'hôpitaux au Québec, l'Hôtel-Dieu, au départ, c'était des religieuses qui s'occupaient des malades. Et donc, c'était le couvent où étaient hébergées les religieuses qui travaillaient à l'Hôtel-Dieu. Comme beaucoup de communautés, elles sont de plus en plus âgées et de moins en moins nombreuses. Donc, le bâtiment, qui est immense, a été racheté par la Ville de Montréal il y a quelques années. Et il est en train, petit à petit, d'être, pas converti parce que c'est assez historique, donc il n'y a pas beaucoup de transformations, mais d'être mis à disposition, en fait, de différents groupes communautaires ou culturels ou tout ça pour occuper les espaces. Et on a eu la chance d'avoir un local là. Donc, on a déménagé, effectivement, il y a quelques semaines. On est encore en train de tout ranger, mais on est bien content d'être rendu là.
Donc, tu parlais un peu des activités qu'il y aura au programme le 10 juin prochain pour le 40e anniversaire des archives. C'est une journée complète d'activités.
Bien, en fait, on commence à 13h parce que c'est quand même un samedi puis qu'on veut laisser le temps aux gens de profiter de leur grasse matinée. Donc, on commence à 13h. Comme je disais, une présentation sur l'histoire des archives, des ateliers ensuite, puis le spectacle après, et puis on finit ça avec quelques chansons de Franklin, de la musique. On a demandé à Franklin de nous préparer un playlist de musique qu'on a écouté dans les bars et dans les fêtes lesbiennes depuis 40 ans, donc de la musique diversifiée, puis avec un petit buffet, des rafraîchissements, tout ça. Ben, parce que bon, on voulait aussi donner l'occasion aux gens de jaser de façon plus informelle, de dire « Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu » et tout ça. On n'a pas nécessairement si souvent ça l'occasion de faire ça.
Et qui mieux que Franklin pour choisir de la musique qu'il a jouée dans les bars alors qu'elle a été DJ dans plusieurs bars lesbiens à Montréal.
Et pour mettre de l'ambiance dans une fête, en tout cas,
oui,
dans mon
aussi.
Expérience. Donc, voilà.
Effectivement. Donc, l'entrée est gratuite, mais vous aimeriez que les gens s'inscrivent quand même pour aider à prévoir le buffet, l'aménagement des salles. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent s'inscrire?
Alors, le plus simple pour l'inscription, c'est vraiment, je pense, de passer par l'événement Facebook. Sur l'événement Facebook, vous avez le lien vers le formulaire où vous pouvez vous inscrire en ligne. Et donc, notre page Facebook, c'est ArchiLesbiQC pour Québec, évidemment. Et il y a un événement 10 juin, là, vous pouvez le trouver assez facilement. Et sinon, vous pouvez aussi nous envoyer un courriel tout simplement à archive avec un S, LQ, @yahoo.ca.
Et la journée sera animée par Jean Bergeron aussi.
Oui.
C'est génial. Il y a un petit souci, c'est que l'avenue des Pins est présentement en travaux et fermée à la circulation. Donc, c'est préférable peut-être de venir à pied ou en métro à l'événement ou en vélo.
Oui, exact. En fait, le stationnement est compliqué, mais bon, c'est le plateau Mont-Royal. Tout le monde sait que le stationnement sur le plateau Mont-Royal, c'est jamais simple. Donc, effectivement, si vous pouvez venir à pied ou en transport en commun ou en tout cas par un moyen de transport actif, c'est certain que c'est plus simple. Bon, après, il y a quand même du stationnement, par exemple, à la Cité ou en fait, l'ancien stationnement de l'Hôtel Dieu est encore utilisable aussi, mais c'est des stationnements payants, évidemment.
Donc, pour en savoir plus, on peut aussi se rendre sur votre site web au www.archiveslesbiennesduquebec.ca. Et c'est quoi History Pin?
Alors, History Pin, ça ressemble un peu à... C'est un mélange entre Instagram, je dirais, et Google Maps. Fait qu'en fait, c'est un site web qui est basé sur une carte, donc une carte du monde entier, en fait, et on peut mettre des pins à des endroits pour raconter des histoires, évidemment, comme c'est History Pin, donc pour faire de l'histoire. Donc, dans certains cas, il y a des gens qui mettent des photos, par exemple, une photo d'un bâtiment il y a 30 ans ou il y a 100 ans, puis ils le géolocalisent sur la carte, et donc on peut faire la comparaison ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Et nous, on a fait pas encore beaucoup, mais on veut continuer ce truc-là, des pins sur des lieux historiques lesbiens à Montréal. Ben, en tout cas, des lieux historiques, des lieux où il s'est passé des choses pour les lesbiennes. Voilà.
Donc, on peut aller sur History Pin puis faire une recherche.
Normalement, le lien est sur notre site web. Il me semble que quand on suit le lien qui est sur le site web, on se retrouve directement sur la liste de pins qui ont été créés par les archives. Et sinon, en fait, la façon dont History Pin fonctionne, c'est que tu cherches un lieu ou une adresse, puis là, ils vont te dire s'il y a des pins pour cette adresse-là, et voilà.
Donc, c'est un rendez-vous le samedi 10 juin de 13h à 19h30 à la Cité des Hospitalières au 251 Avenue des Pins à Montréal. Merci beaucoup, Laure Neuville, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette journée historique.
Merci, Nathalie.
Alors, c'était Laure Neuville des Archives lesbiennes du Québec et on poursuit en musique avec Je t'attendrai, une chanson de Franklin qui jouera quelques-unes de ses chansons lors de l'événement.
Yeah.
Nous avons le plaisir de recevoir Marie-Andrée Courval qui participera au 40e anniversaire des Archives lesbiennes en présentant sa comédie musicale qui s'intitule « Les unes pour les autres ». Bonsoir Marie-Andrée.
Bonsoir Nathalie.
Puisqu'on souligne les 40 ans d'Archives lesbiennes du Québec, j'aimerais commencer par parler de ton parcours dans la communauté. J'ai appris que tu avais un atelier d'ébénisterie dans la mythique école Guilford. Est-ce que tu peux nous parler de tes souvenirs reliés à l'école Guilford?
L'école Guilford, on a été tellement chanceuse, ma génération, d'avoir ce lieu-là, lieu de création, d'échange. Ça a été des années formidables. Moi, j'avais mon atelier au sous-sol, mais évidemment, je m'occupais de la gestion de la place avec d'autres. Alors, ben, comme tu sais, il y avait des comédiennes, il y avait les archives lesbiennes qui logeaient là au début, il y avait des peintres, il y avait tout. Il y avait le grand gymnase qu'on a utilisé pour plusieurs événements. Alors, c'était... Quand je regarde les jeunes lesbiennes d'aujourd'hui qui tendent à avoir, enfin, qui n'ont pas de lieu comme tel, qui est spécifique, je trouve ça triste pour elles. Ben, peut-être qu'elles ne trouvent pas ça triste parce que la question se pose autrement pour leur génération, là, mais en tout cas, nous autres, ça a été un lieu de liberté et d'échange formidable qui a duré plusieurs années.
Et tu es aussi très impliquée écologiquement dans ton village en Estrie et tu as été professeure de géographie, je crois.
Oui, géographie et histoire au secondaire. Et puis, dans mon village, en fait, c'est même pas un village, c'est une municipalité parce qu'il n'y a pas de cœur villageois, parce que c'est l'ancien canton de Tamten qui était séparé en plusieurs autres municipalités. Donc, mais oui, je suis bien interprète. On a une magnifique tourbière dans Ardville. D'ailleurs, si quelqu'un écoute ça et aimerait visiter une tourbière, c'est gratuit. Ça s'appelle la tourbière de Marlington. Et puis, vous nous communiquez avec nous et puis on vous fait des visites gratuites. Alors, c'est une des rares tourbières dans le du Québec, qui n'a jamais été perturbée parce que souvent, les tourbières étaient perçues comme des milieux malsains et pour toutes sortes de raisons. Et puis, donc, on s'en servait comme des potoirs, on les drainait pour faire de l'agriculture ou pour utiliser la tourbe en horticulture. Et beaucoup de celles qu'on peut visiter de nos jours ont été restaurées, alors que la nôtre, elle n'a jamais, jamais, jamais été perturbée grâce à des visionnaires, là, il y a une cinquantaine d'années, qui ont refusé de la perturber. Donc, elle est d'une grande pureté écologique et nous, on fait justement, on la préserve, on fait des visites guidées pour les gens intéressés.
Et quand tu étais professeur, tu amenais aussi tes élèves dans les communautés autochtones. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de ça.
Oui. Quand j'étais dans la quarantaine, je me retrouve à Ottawa dans un petit bistrot et il y avait une famille d'Inuits à côté, sur la table d'à côté. Puis j'étais toute énervée. Je me dis, des Inuits, j'avais jamais rencontré d'Inuits. Puis là, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais que c'est bête. Je suis allée en Europe, je suis allée en Amérique du Sud, je suis allée à beaucoup d'endroits sur la planète. Puis je suis jamais allée chez nous, dans le Nord, rencontrer mes propres concitoyens. Je me suis dit, il faut absolument changer ça. Alors, comme j'ai eu le bonheur et le privilège d'être enseignante au secondaire, je me suis dit, je vais organiser des voyages pour que moi découvrir, mais le faire découvrir aux élèves aussi. Alors, on mêlait tout le temps plein air et rencontre avec les Autochtones. Alors, on a fait la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, l'Abitibi, la Baie-James, le nord du Manitoba, le Yukon, la Colombie-Britannique, les îles de la Reine-Charlotte, bon, et l'Alaska. Et toujours, donc, en rencontrant des Premières Nations en Abitibi aussi, et en mêlant plein air. Donc, on a fait du canot avec des Algonquins, du kayak de mer, toutes sortes de rencontres très intéressantes. Et puis, ben, il y a la Commission des droits de la personne avec M. Pierre, mon Dieu, j'ai un blanc, j'ai oublié son nom, qui a écrit un livret il y a au moins 20 ans qui s'appelait « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». Et j'ai lu ça, je suis tombée à la renverse parce que c'était tellement extraordinaire ce que j'apprenais de la réalité, justement, des Premières Nations, que moi, j'enseignais ça dans mes cours, et alors que c'était pas du tout dans le programme à l'époque. Alors, c'est sûr que pour moi, je pense que j'ai aidé à sensibiliser quelques classes, quelques cohortes d'élèves à la situation que maintenant tout le monde découvre. Et puis, moi, ce que je raconte en ce moment, je me dis, mais oui, mais nos sociétés disent, ah, mais c'est incroyable, mais on le savait pas, mais on le savait pas. Mais si on le savait pas, c'est parce qu'on voulait pas le savoir. Parce que je l'enseignais dans mes classes il y a 20 ans, tu sais, sur ce qu'on découvre aujourd'hui, là, parce que c'était écrit. Et c'était écrit, c'était documenté, c'était publié même. Alors, voilà.
J'aurais adoré être ton élève. Parlons de la comédie musicale Les unes pour les autres que vous allez présenter lors du 40e anniversaire des Archives lesbiennes du Québec. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de présenter cette pièce et quelle est son origine?
Son origine, c'est que quand on était jeune, à plusieurs reprises, on se disait, ben nous, lesbiennes, on n'a pas d'enfants, on n'en aura pas, ben pour la majorité. Et puis, donc, on va vieillir seul. Et ce qu'on craignait beaucoup, c'est de vieillir dans l'isolement. Et on se voyait pas vivre dans les maisons CHSLD, les RPA pour personnes âgées ordinaires, parce que déjà, nous, on vivait dans la visibilité. Et puis, ben, on le sait bien, à l'époque, du moins, c'était pas possible, probablement, de vivre visible comme lesbienne dans ces résidences-là. Alors, on a fait plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Alors, donc, pourquoi ces projets-là n'ont pas abouti? Est-ce que c'est parce qu'on était trop jeunes et qu'on sentait pas l'urgence d'agir? Parce que c'est difficile à dire pourquoi exactement. Là. C'est difficile de trouver un mode de fonctionnement qui plaisait à tout le monde. Bref, j'ai participé à trois groupes qui ont cherché à créer quelque chose comme ça et ça n'a pas... c'est tombé à l'eau. Alors, je me suis dit, tiens, je me suis fait le plaisir d'écrire ça pour le vivre au moins en imagination, de voir sur papier qu'est-ce que ça pourrait être, un endroit où des lesbiennes âgées vivent ensemble. Alors, la comédie se passe en 88, que je l'ai écrite. Ça se passe en 88, mais nos personnages ont déjà l'âge qu'on a aujourd'hui, c'est ça qui est amusant. Alors, les personnages ont entre 60 et 80, 75, 80 ans dans la comédie, mais ça se passe en 88.
Donc, tu l'as écrit quand tu étais plus jeune?
Oui, je l'ai écrit quand j'avais 30 quelques années, là. Oui. Et puis, j'aurais aimé ça qu'on la monte à cette époque-là, mais quand je l'ai présenté aux jeunes qui étaient dans le milieu artistique, tout le monde m'a dit, c'est compliqué de monter une pièce de théâtre pour le jouer où, quand, c'est une fois, personne n'avait l'énergie de faire ça. Alors, c'est parti dans le fond des tiroirs. Et puis, mon amie Anne Michaud, qui avait une copie, il y a 2 ans, elle déménage et elle retombe sur la copie et elle le relit. Puis elle se dit, mais mon Dieu, mais ça fait 35 ans que ça a été écrit, puis c'est encore, tu sais, on peut encore, on pourrait dire que c'est quasiment d'actualité, là, cette question-là, et puis elle trouvait ça encore amusant. Alors on s'est dit, au lieu de le jouer, parce que c'est effectivement compliqué, monter une pièce de théâtre quand t'es pas dans ce domaine-là, là, on va faire une lecture. Et Anne participe aux archives lesbiennes, et comme c'était les 40 ans cette année, ben les filles ont accepté de faire une classe à la comédie dans la journée du 10 juin.
Puis il y a plusieurs femmes qui participent à la pièce. Est-ce que tu veux nous en parler?
Oui, bien, il y a 6 personnages. Alors, 6 personnages qui jouent un personnage. En fait, on la lit, mais on va essayer évidemment de mettre beaucoup de d'expression dans notre lecture. Là. Et puis, donc, un des personnages, c'est une lesbienne qui était politiquement très engagée et qui a vécu beaucoup de déceptions et beaucoup de guéguerres, tu sais, comme on en a eu effectivement dans les milieux, et qui est restée un peu déçue de cette expérience-là. Mais c'est une politicienne dans l'âme. Il y en a une autre qui est plus une rêveuse, qui est plus dans l'ésotérisme, une qui est plus la fille drôle, la fille énergique, qui met de la vie dans l'eau elle est. Il y en a une qui est la bonne militante, qui est toujours là pour agir, pour faire les choses. C'est qu'on a toujours besoin de monde comme ça dans les communautés. Et puis l'autre, c'est la charmeuse. On en a toutes connu quelques-unes. Alors, ces 5 personnages-là vivent ensemble à la campagne. Et puis, ben là, je ne vais pas révéler toute l'histoire,
non,
évidemment.
Non, non.
Mais c'est ça. Alors, il se passe des petites choses, c'est un petit peu amusant. Et puis, il y a des chansons qui viennent saler un petit peu l'histoire, une fois de temps en temps. Il y a 10 dizaines de chansons. C'est ma conjointe et moi qu'on a fait les musiques. Et puis, il y a ma sœur aussi, Geneviève, qui va chanter aussi. Alors, on chante nous-mêmes. On a essayé de trouver des musiciennes, mais on n'a pas pu. Finalement, Christiane et moi, on s'est dit, ben, coudonc. On n'est pas musiciennes, mais on est capable d'inventer des mélodies. Alors, on les a faites. Et puis, ma sœur, Christiane et moi, on va les chanter.
Génial. Et la pièce sera présentée le 10 juin prochain à 16h30 lors du 40e anniversaire des Archives lesbiennes du Québec.
Donc, les femmes intéressées devraient arriver un peu plus tôt, vers 4h15, là, pour se rendre à la salle en question, parce que c'est grand, hein, la cité des hospitalières. Alors.
Merci beaucoup, Marie-André Courval, et au plaisir de voir cette pièce-là.
Bien, merci beaucoup, Nathalie. À bientôt.
À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. On poursuit en musique avec Esther Santana, qui sera avec nous tout de suite après sa chanson « Ironia ».
Están pasando muchas fotos, lembranza de mocedad, ironía de esta vida, un tucán con pasaporte para el emigrar para el norte. Papagaio legendário.
Notre prochaine invitée est un cadeau du ciel. Assar Santana est montréalaise d'origine sud-américaine, auteure-compositrice-interprète. Elle a fondé le groupe Chamel numéro 6 et en 1994, elle publiait son premier roman, Boléro, au remue-ménage, qui a été traduit en anglais par les éditions de Women's Press de Toronto. Elle a aussi écrit Récit de la saleté en attendant un bon bain. Ça fait des années que nous n'avons pas eu de nouvelles d'Assar et il faut souligner que lorsque l'émission s'appelait La balade des furies, notre musique d'ouverture était une chanson d'Assar Santana. Bonsoir, Assar Santana.
Allô?
Quel plaisir de te retrouver aujourd'hui.
C'est pareil. C'est un plaisir partagé.
Je tenais à te recevoir pour cette émission où on parle du 40e anniversaire des Archives lesbiennes du Québec parce que pour moi, tu fais partie des archives. Tu étais très présente, entre autres, dans les années 90 avec ta musique. Tu as fait plusieurs festivals Nuit d'Afrique. Quels souvenirs gardes-tu de ces années?
Ah, je les garde plein. Par exemple, que tu dis, le Festival Nuit d'Afrique, ça c'est un parmi d'autres. Je fais tous les festivals ici,
oui.
Je parle Festival du Jazz, la Francophonie, à l'extérieur, on a fait Angleterre, Lesbos, c'est un très bon souvenir. Lesbos en Grèce, c'est un festival des femmes. Le festival de Michigan,
oui.
À Michigan, aux États-Unis, je l'ai fait trois fois même. Puis les ressorts d'émission de la culture ici, Toronto, le Canada d'une côte à l'autre.
Tu t'es promené beaucoup avec ta musique.
Ben, c'était moi. À ce moment-là, c'était mon banderole. C'était l'arme avec qui je me promouvais autant que femme libre, en train de promouvoir la liberté.
Oui. Oui. Et est-ce que tu fais toujours de la musique aujourd'hui et est-ce que tu écris encore?
Maintenant, j'écris, j'ai fini un truc, puis ben, c'est ça, malheureusement. J'ai parlé avec Joan Coulomb, mais juste un peu avant qu'elle décède.
Oui.
Puis c'est ça, on m'avait dit de présenter les romans, ces dernières que je viens d'écrire, aux éditions qu'elle dirigeait, oui.
Aux éditions Sans fin.
C'est ça, Sans fin avec Dominique Bourg. Mmh. Puis ben, c'est ça, depuis ce moment-là, je sais pas, j'ai eu comme un coup de bas. Puis je l'ai mis là, de côté, puis je me dis, à un moment donné, je vais gérer, puis je vais le présenter pour être publié, mais je sais pas. Ça m'a sonné un petit peu ce dessin-là, comme ça.
Oui, moi aussi.
Parce que quand je parlais avec elle, j'allais l'amener, mon manuscrit, l'envoyer, puis après ça, on allait discuter, une semaine ou deux semaines après, puis après ça, on m'annonce son décès. Wow!
Oui, puis elle est décédée rapidement.
Ah oui, 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 oui. Donc, voilà. Puis, mais pour le moment, ouais, c'est ça. Donc, je suis plus à l'écriture qu'à la musique à ce moment. La musique, c'est plus, par exemple, dans mon dernier voyage, j'étais en Espagne, dans la région du Pyrénées et la Catalogne. Puis là, c'est des groupes de femmes qui ont des terres là-bas. Puis avec ces femmes-là, bon, on faisait des jams de musique à chaque trois jours, d'un village à l'autre. C'est une expérience très bonne. C'est des femmes qui viennent d'un peu partout d'Europe.
Okay.
Des Roumaines, des Hollandaises, des Espagnols, des Portugaises, de partout.
Ça doit être intéressant de partager la musique.
Très intéressant, surtout que souvent on vient de des milieux divers à musique différents.
Oui.
Donc c'est la façon qu'on peut amalgamer les tout. C'était une très bonne expérience. Et c'est des terres, hein, et ces femmes y ont là-bas, ils ont plusieurs terres. Et plusieurs communautés et en profitent beaucoup de l'Union européenne parce que comme ça, entre les européennes, elles puissent se rassembler puis faire des projets communs.
Génial.
Et c'est plutôt la musique et puis la construction des maisons. C'est pas beaucoup les terres. Je pensais qu'elle travaillait les terres. Non, c'est la musique et puis la construction des maisons. Vraiment dans les fonds dans le bois, là, en dedans, tu sais.
Ouais.
Puis là, je viens de recevoir un email d'une d'elles, de mon amie la plus proche, Laurine, pour me dire que, bon, ils ont eu comme une menace maintenant de l'Union européenne qui veut faire, pas loin de l'hôtel où elles sont, pour faire des grandes recherches d'installations au niveau industriel des panneaux solaires pour ramasser de l'énergie pour l'Europe. L'industrie qui vient les menacer, qui va prendre pas loin de ces femmes, ils sont là, pour faire ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est des. Mais rien n'empêche, parce que c'est des battantes.
Mm-hmm.
Parce que même avant les groupes que je connais, j'ai vu ou j'ai entendu parler d'autres groupes qui existaient même avant, mais qui ont été boycottés, mais qui sont revenus à la charge, mais qui sont toujours là, c'est des battantes.
Oui.
Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'est mon dernier voyage. Donc, mes dernières expériences aussi en musique, dans lesquelles je partageais avec tout le monde. Parce qu'ici, quand je suis arrivée, c'est ça, je suis revenue le 29 février. Cette année-là, il y avait eu 29 jeux. C'est là qu'il y a eu la pandémie. Trois jours plus tard, c'était fermé.
Oui.
Donc, voilà. Puis, depuis là, j'ai pas eu grand échange musical.
Est-ce que tu joues pour ton plaisir quand même ou plus ou moins?
Oui, mais pas comme c'était à ce moment-là, si. Non, après ça qu'on a passé un an et demi ou deux ans là, enfermé presque.
Oui.
maintenant, si on commence à se réveiller un petit peu, ouais.
Est-ce que tu vas encore au Mont-Royal parce que tu joues du djembé?
Non, même ça fait longtemps. Tu sais que j'avais parti ce truc-là en 81. Hein?
Oui, je sais.
Quand je parle, des fois, les gens... je suis allée dans exactement où j'aime. Et c'était dans le parc, mais pas dans le truc de la montagne. On a fait un pique-nique et on a fait une jambe là-bas. Puis une fille qui me dit, mais quel âge que t'as, toi? Je connaissais pas la fille, là. Je lui dis, mais je savais pas quoi dire, si. Je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question-là, et comme ça, si raide? Elle me dit, parce que j'ai un CV qu'on dirait que ça fait longtemps qu'elle a été faite. Je lui dis, pourquoi? Pour la qualité? Je dis, non, parce que on m'a dit que c'est une femme qui l'avait fait, puis je ne m'attendais pas à te rencontrer, pas dans un pique-nique. Puis c'est une jeune fille qu'elle va avoir peut-être dans la fin de la vingtaine. Donc j'imagine que ben, c'est ça. Je dois faire.
Mais ça a fonctionné en tout cas, parce que ça existe encore, les tam-tams sur la montagne.
Oui. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été de ce côté-là.
On m'a dit que tu as bien connu Chantal Daigle.
Ah oui, je ne l'ai pas bien connue. C'est-à-dire que je l'ai connue pendant ce temps-là parce que j'habitais à 74 Saint-Joseph.
OK.
Elle était dans le centre des femmes, puis c'était 21 Saint-Joseph, presque à côté de chez moi. Puis okay. C'est ça, dans le temps, il fallait la cacher, donc elle a été cachée aussi chez moi.
OK.
Ça fait longtemps, mais ça aussi, hein?
Oui, ça fait longtemps. C'est pour celle qui la replace pas, Chantal Daigle, c'est celle qui s'est battue pour le droit à l'avortement, qui a été en procès.
Malgré elle, oui, parce qu'avant elle, parce que si je me rappelle bien, on était déjà impliqués dans la lutte pour l'avortement,
oui.
Même beaucoup avant elle.
C'était déjà légal au Québec, mais son mari a entamé un procès.
C'est ça, oui, ben, en tout cas. Jean-Guy, qui s'appelait légal, il me semble. Oui. Anyway. Donc, mais même avant elle, je me rappelle qu'on avait fait plusieurs fêtes, de levée de fonds, que c'était au Café Campus, à la salle polonaise. Et c'était pour la levée de fonds pour l'avortement. Ça, c'était quelques années. On avait commencé ça quelques années auparavant. Hein.
Mm-hmm.
Mine de rien. Puis donc... Ben, c'est ça qui a fait en sorte que le centre de santé des femmes au niveau avortement soit plus visible aussi avant même. C'est sûr que l'existence et puis la lutte de Chantal Daigle, ça a aidé beaucoup à mettre plus en relief cette histoire-là. Ouais. Et elle avait exactement aussi à côté de chez moi, il y avait aussi le truc de... Le monsieur qui a décédé, comment s'appelait Morgan Taylor. C'est ça, parce que lui, le bouddhi, c'était à côté du centre de santé des femmes et il a posé ma maison. C'est ça, dans ce temps-là. Anyway, donc voilà.
On va écouter ta chanson Mian Bell, qui justement était l'ouverture de notre émission dans les années 90. Est-ce que tu veux nous la présenter?
Mian Bell. Cette chanson-là, j'avais écrit cette chanson-là un peu inspirée par un récit. La chanson, elle est comme très gay, mais le récit, elle n'était pas gay. C'est quelqu'un qui m'avait parlé d'une fille qui s'appelait Ambelé, quelque chose comme ça. Et j'ai décidé de l'appeler Ambelé. Elle avait été incisée, la fille, sur l'intuition. L'intuition, c'est un traitement qu'ils font dans certains endroits en Afrique. On les coupe les clitos.
L'excision.
L'incision, c'est ça qu'ils disaient, peut-être avec mon accent, là, parce que c'est un accent que je vais garder toute ma vie, là. C'est ça. Donc, c'était en honneur de cette jeune fille qui avait fait cette chanson-là. Même si elle allait orgueilleuse, l'inspiration ne l'était pas.
Wow.
Tu voulais que tu la présentes, donc Mian Bell, que c'est une chanson que j'ai faite en honneur d'une fille qui, malgré elle, a été incisée. Et cette opération horrible qui me fait sourire.
Mm-hmm. Oui, on l'écoute.
Thank you. que era una flor tan sola que se apagó en el desierto. Mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel. Que no la busquen, no la busquen, no la busquen, ya la encontré. Mi Abel, 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 Belé, mi Abel, Belé, mi Abel, Belé, mi Abel, mi Abel, perdida y orgullosa, pero triste, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel, que era una flor tan sola que se apagó en el desierto, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel. Mi Abel, mi Abel, que no la busquen, no la busquen, no la busquen, ya la encontré. Mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel, mi Abel.
Nous sommes de retour avec Assar Santana. Est-ce que tu as des souvenirs reliés à l'école Guilford? Assar, est-ce que tu fréquentais l'école Guilford, toi?
Ah oui, 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 oui. Puis j'en ai un, vraiment, que je regardais toute ma vie. C'est là que j'ai monté mon groupe Chamais numéro 6. Puis c'est là qu'on a commencé à solidifier les groupes.
Wow!
Et c'est là qu'on pratiquait. C'est là qu'on a organisé vraiment ce groupe-là.
Moi, je n'ai pas connu l'école Guilford, mais ça avait l'air d'être un lieu tellement enrichissant.
C'est un lieu qui a servi à épanouir beaucoup les mouvements des femmes. Si?
Oui.
Par exemple, aussi, même la manifestation, la Nuit sans peur.
Oui.
Mais c'est là que les gens ils se réunissaient pour les différentes revendications qu'on allait faire en société. Là. Ouais. C'est là qu'il y avait lieu les rencontres. Des femmes qui avaient des groupes de karaté, des femmes qui avaient des groupes de tai chi, oui. Véronica Oliari. Plein de choses sont arrivées dans l'école Guilford.
C'est impressionnant comment ce lieu-là a été important dans notre histoire.
Je me demande ce qui est devenu, mais en tout cas. Mais ça a été, c'est un grand âge dans l'histoire des femmes.
Oui, absolument. Quand tu regardes en arrière, quels sont les moments que tu mettrais dans tes archives personnelles?
Les moments, c'est c'est très nombreux.
Oui.
C'est très nombreux. Non, sans blague, là, c'est comme... J'avais été faire 3 concerts à Londres. Puis là, dans le concert, après qu'on a fini de faire le concert, j'ai rencontré la mairesse de Lesbos.
Wow.
Lesbos, c'est une île...
En Grèce.
En Grèce. C'est ça, puis il y a un festival. Puis la rencontre avec sa femme-là, puis sa copine, tout ça, ça a été... assez bien, mais à Londres, ça a été un très beau moment d'histoire dans ma vie. Donc, ça, c'est un des moments.
Oui, je suis sûre qu'il y en a plusieurs.
Mais sûrement.
Merci beaucoup, Assor Santana. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler plus souvent.
Je t'embrasse et je les souhaite une longue vie à ton émission.
Merci beaucoup, au plaisir.
Ciao, ciao, ouais.
Bye. On va écouter Mia Belle, la chanson dans laquelle Assor Santana présente ses musiciennes.
Mia Belle, Mia Belle, Mia Belle, eh, eh, oh, oh, Mia Belle, eh, oh, Mia Belle, Mia Belle, eh, eh, oh, on vit découpé, on vit découpé. Les menaces, tu trouveras ton espace. Et qui sait, mia belle, eh, oh, mia belle, mia belle, eh, eh, oh, oh, mia belle, eh, oh, mia belle, mia belle, eh, eh, oh. Sax, Janet, Lomb.
Thank you. percusión, Asa Santana.
C'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à nos invités, Laure Neuville, Marie-André Courval et Assar Santana. Je vous rappelle que le 40e anniversaire des Archives lesbiennes du Québec sera célébré le samedi 10 juin prochain de 13h à 19h30 à la Cité des Hospitalières, au 251 Avenue des Pins à Montréal. Et on se donne rendez-vous le lundi 19 juin à 19h pour une autre émission de Lesbosons. Bonne fin de soirée.